On change de chapeau ce matin. Content d'être avec vous. C'est vrai que c'est un privilège, prof Raté le rappelle. C'est un privilège et c'est intimidant en même temps d'être là comme porte-parole, de proclamer la parole de Dieu. Puis on croit qu'elle est vivante, on croit qu'elle est efficace et on croit qu'elle perce les cœurs même les plus endurcis. C'est ma conviction. Puis vraiment ce matin, j'aimerais qu'on prenne cette posture-là devant la parole de Dieu. Et de briser toute familiarité. Parce que j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, vous êtes à la bonne place. Vous avez vraiment fait le bon choix de venir à l'église ce matin. Vraiment, souvent, le réflexe qu'on a, en tout cas, c'est mon réflexe. Si vous ne me voyez pas le dimanche, vous allez comprendre, OK, quelque chose. Quand ça va mal, on a tendance à vouloir s'isoler. Hein? On veut s'isoler, on ne veut pas se montrer dans notre état le plus faible. OK? Que je suis le seul à avoir ce réflexe-là. je vois des visages avec des gros points d'interrogation. Non, c'est vrai, on veut se montrer sous notre plus beau jour habituellement. Et puis, fait que tout ça pour dire que si vous êtes venu ce matin et que ça va plus ou moins bien, si vous êtes avec nous sur Internet, vous êtes déshabitué ou bien vous avez entendu parler de l'Église, de ce qu'on fait ici, vous êtes curieux, bienvenue. Puis c'est un rendez-vous qu'on se donne semaine après semaine. Parce qu'encore une fois, on croit que le Seigneur agit, qu'il est vivant. Aujourd'hui, on l'a chanté tantôt, et puis si on répète ce rendez-vous-là semaine après semaine, c'est que c'est vraiment une conviction. C'est un rendez-vous qu'on se donne. Le texte que je veux vous partager, que je veux lire avec vous, se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens. Et puis, on va lire le premier chapitre ensemble. Alors, Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors ceux qui ont consulté le sommelier, ceux qui ont pris le temps d'ouvrir le sommelier cette semaine, vous avez peut-être vu que j'ai intitulé mon message Influenceur. OK, ça, peut-être que ça fait friser certains. Évidemment, c'est un clin d'œil à la culture populaire. Influenceur, vous avez entendu le terme dernièrement, plus qu'avant. Est-ce que ça vous fait sonner une cloche? Influenceur, de quoi on parle? Influenceur, c'est étroitement relié avec les réseaux sociaux. On a des influenceurs parmi nous. Donc, c'est beaucoup des gens qui vont commercialiser leur image ou mettre de l'avant du design intérieur, ils vont avoir un paquet d'abonnés sur Instagram, sur YouTube. Et puis, on les appelle influenceurs parce qu'ils ont un impact, ils ont effectivement une influence sur beaucoup de gens, surtout dans ces domaines-là, OK? Donc, influenceurs. Et j'aurais pu appeler mon message imitateur, mais il y aurait eu beaucoup moins de monde ce matin ici. C'est moins vendeur. Et imitateur, entre imitateur et influenceur, hein, on a choisi un titre qui est vendeur. Là, vous allez me dire, ouais, mais on n'est pas supposé de présenter la parole de Dieu telle qu'elle est sans essayer de la vendre puis de l'enjoliver. C'est juste un titre, OK? C'est juste le titre de message. Vous me jugerez une fois que j'aurai terminé le message. Mais effectivement, que Dieu me garde fidèle à sa parole. Et puis, c'est le désir. C'est pour ça qu'Emmanuel a prié au début. Chaque fois que quelqu'un se présente ici, on veut vraiment rester fidèle à sa parole. Donc, qu'est-ce qu'un influenceur selon le cœur de Dieu? C'est la question que je vous pose ce matin. Qu'est-ce qu'un influenceur selon le cœur de Dieu? Et juste pour vous mettre dans le contexte de ce qu'on vient de lire, l'Église à Thessalonique, c'est une Église qui est jeune, et on le voit déjà dans les premières lignes, c'est une Église qui est dynamique, malgré qu'elle soit jeune, récemment implantée par Paul, à la suite de trois sabbats là, enseignés probablement dans les synagogues, c'était ses habitudes. C'est une église déjà qui est jeune, qui est dynamique, qui a un rayonnement dans la région. Donc, étant dans le nord de la Grèce actuelle, là, elle a un rayonnement autant dans le nord que dans le sud. Et puis, Paul va leur écrire cette lettre-là peu de temps après les avoir visités, après avoir implanté l'église. Et donc, il va leur écrire de Corinthe. Et puis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on se met à lire Thessalonique, on dirait que ça fait du bien dans un sens, je veux dire pourquoi, moi j'aime beaucoup ces deux épîtres-là. On dirait qu'il n'y a pas de problème qu'ils sont en train de régler. Là. C'est une église qui va bien, c'est frais. Quand on sort de Corinthe, puis de Galate, Paul y arrive, puis il leur rentre dedans, sous deux aspects différents. Là, Corinthe et Galate avaient deux types de problèmes différents. Mais là, on arrive à l'épître aux Thessaloniciens, et puis wow, c'est bon, ça fait du bien de voir une église comme ça qui va bien, qui est en santé. Et puis, fait que j'affectionne particulièrement cette lettre-là. Et écoutez, on pourrait passer beaucoup de temps sur la lettre. On pourrait y aller vraiment verset par verset. Moi, ce matin, j'ai quelques minutes. Je voudrais juste prendre le temps de m'arrêter sur un aspect ici que Paul va traiter par rapport à la vie de l'église. Et qui va être un indice pour nous, un secret que la parole nous dévoile ce matin. Et ça se trouve au verset 6, où il va dire, « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. On dit souvent que les enfants apprennent, comment? En imitant, hein? On dit souvent que les enfants apprennent en imitant. Bon, remarque au verset 6 que c'est un secret ici qui nous est dévoilé par rapport à la vie d'Église à Thessalonique. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul va dire « Vous avez été mes imitateurs », il va parler au passé, tandis que dans la plupart des autres lettres qu'il va envoyer, il va commander. Il va commander « Soyez mes imitateurs, soyez les imitateurs de Dieu ». Mais là, il s'adresse aux Thessaloniciens en leur disant « Vous avez, de toute évidence, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, et ça a porté du fruit. Ça a réellement porté du fruit. » Et puis, c'est une clé là, pour nous ce matin par rapport à justement la santé de cette Église-là, le dynamisme puis le fait qu'elle soit, qu'elle rayonne dans toute la région. Alors, quand on parcourt les Écritures, on s'aperçoit que Paul va souvent ramener ce point-là qui est essentiel à notre marche avec Dieu. Le fait d'être des imitateurs. Alors, Paul va dire, comme on le voit ici, qu'on est appelé à être imitateur de lui, Paul, comme apôtre. 1 Corinthiens 4, 16. Oui. « Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. » Donc, à plusieurs reprises, Paul va exhorter, va commander les églises à être imitateurs, ses imitateurs comme apôtres, comme père dans la foi. Et il va dire une chose intéressante, je crois que c'est dans le verset 1 Corinthiens 4, 16, il va dire, « Quand même vous auriez 10 000 maîtres en Christ, en Jésus-Christ, vous avez un seul père dans la foi. » Et je trouve que c'est extrêmement pertinent pour nous aujourd'hui. On en parle beaucoup dernièrement, et surtout avec la pandémie qui nous a frappés, ça a exacerbé quelque chose, et c'est la suivante, on a énormément de matériel disponible en ligne. On a énormément d'enseignants, de prédicateurs, de maîtres en Christ. Mais Paul va dire, il n'y a rien
qui va remplacer la parole donnée par votre père dans la foi, par ceux qui sont vos parents dans la foi, par ceux qui sont dédiés jour et nuit à vous enseigner personnellement. Donc, vous pourrez avoir 10 000 maîtres en Christ, 10 000 prédicateurs en ligne, 10 000 conférenciers, 10 000 blogueurs, et c'est bon, c'est une richesse, mais il y a encore Gospel Coalition, dernièrement, qui mettait en garde, qui disait, attention, si vous avez 2 heures à mettre de côté le dimanche, allez à votre église locale. Déplacez-vous. Mettez votre Internet à off. Lâchez notre site. On est content que vous soyez là. On est content de mettre à profit des articles. Écoutez, c'est la crème, hein? Gospel Coalition, l'Évangile 21. Mais si vous avez du temps à mettre le dimanche, rendez-vous physiquement à votre église locale. Puis on va voir pourquoi. Alors, je vous en conjure, on voit que Paul stresse un point ici qui est extrêmement important pour lui. Soyez mes imitateurs, un peu plus loin dans le même épître, 1 Corinthiens 11:1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, évidemment, Paul, continuellement, il veut réaffirmer son autorité comme apôtre, mais il veut rappeler que sa marche à lui, elle est fondée sur Christ. Okay? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même. Donc, imitateur de Paul comme apôtre, on a la parole qui nous est laissée, on a les lettres de Paul, donc on continue à être ses imitateurs dans ce qu'on voit, dans son enseignement et puis sa marche. Okay? Ensuite, imitateur de Dieu. C'est là que les gens deviennent un peu plus nerveux. Est-ce qu'on peut réellement être imitateur de Dieu? Imitateur de Dieu, Éphésiens 5:1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Être enfant de Dieu, régénéré par l'Esprit-Saint, comme on le voyait encore dans la capsule de Pasteur Jeff, crée en nous des désirs nouveaux et nous amène, malgré nos échecs, malgré qu'on va trébucher, à continuellement désirer de plaire à notre Père. On va désirer être ses imitateurs. Et ce n'est pas que notre justice dépend de notre performance dans la façon dont on va marcher avec lui, mais c'est nécessairement un fruit qu'on va porter, un désir qui va émerger de notre vie, qui va transpirer de notre vie, de vouloir imiter Dieu. Éphésiens 5:1. Et ce passage-là, il y a un mot qui est intéressant, qu'on retrouve souvent. Devenez donc. Okay, en anglais, c'est quoi donc? Therefore. Hein, tu connaissais la blague des... La blague des enseignants en théologie ou les pasteurs, ben, c'est une blague, plus ou moins. C'est plutôt un truc d'interprétation des Écritures pour remettre dans le contexte. Therefore, il faut se demander, why is it therefore? Hein? Why is it therefore? Donc, si une phrase commence en disant donc ou therefore, il faut revenir en arrière et dire, OK, il est en train de me parler de quelque chose. Pour bien comprendre, je dois revenir en arrière. Donc, Éphésiens 5:1, « Devenez donc les imitateurs de Dieu » nous renvoie à 4:32, qui va nous expliquer un peu comment est-ce qu'on peut être imitateur de Dieu, comment est-ce qu'on peut imiter Dieu. 4:32, « Vous pardonnant réciproquement. » Et puis, on va développer un peu plus tard, tantôt, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on doit imiter exactement, mais 4:32, « Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et tout à l'heure dans le texte, il y a la suite, c'était « marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. » Mais attention, c'est plus que reproduire bêtement un comportement. On parlait d'imiter l'apôtre, d'imiter Dieu, d'imiter Christ. C'est plus que simplement bêtement reproduire le comportement de quelqu'un, mais c'est chercher continuellement à Christ, ressembler à Christ. Chercher continuellement à lui ressembler, à se faire une joie de l'honorer dans tout ce qu'on fait. Et ça, c'est fondé dans la grâce qu'on aura connue en lui. Comme Dieu, comme Christ, ça demande, c'est vital pour justement qu'on ne tombe pas dans un reproduire bêtement un comportement. On doit quotidiennement goûter et expérimenter cette grâce de Dieu à notre égard. Notre imitation doit être enracinée jour après jour dans cette expérience de la grâce de Dieu à notre égard. De se rappeler cette œuvre qu'il a accomplie il y a 2000 ans et ses effets, son impact dans nos vies jour après jour. C'est essentiel. Se rappeler sa grâce, c'est ça qui est le fondement de notre imitation. C'est ça qui va être notre zèle à chercher à lui ressembler de plus en plus, à être transformé à son image. Donc, imitation de Paul comme apôtre, imitation de Dieu, imitation de ceux qui marchent selon le modèle qu'on a chez les apôtres. Alors, on est aussi appelé à imiter ceux qui marchent selon le modèle qu'on trouve chez Paul, chez les apôtres. Donc, on est une église avec des gens qui ont été peut-être convertis tout récemment, des gens plus matures dans le Seigneur, avec des expériences de toutes sortes. Et encore une fois, je reviens à l'importance de se retrouver physiquement comme Église, de retrouver de retrouver à quel point c'est un incontournable, la vie d'Église, la vie communautaire. Parce qu'essayez d'imiter quelqu'un que vous ne voyez pas, vous allez pouvoir le faire avec des gens que vous allez voir en ligne, mais on a besoin comme Église, parce que Dieu fait quelque chose de particulier pour notre Église locale, qui n'est peut-être pas en train de faire pour d'autres Églises. Sa parole est la même, on traverse comme Église des saisons, chacun dans nos temps. Et puis Dieu parle dans des saisons particulières, et puis il y a des paroles qu'il va nous donner. Écoutez, le rôle du pasteur va être d'être continuellement devant Dieu pour développer une sensibilité à savoir qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple aujourd'hui. Et donc, on est appelé à imiter ceux qui marchent selon le modèle qu'on a chez les apôtres. Philippiens 3, 17, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Portez le regard. On a besoin d'être ensemble pour porter le regard sur ces gens qui nous inspirent. On a des gens dans l'Assemblée qui vont nous inspirer, qui vont être un modèle pour notre vie avec Christ, un modèle de foi, un modèle d'obéissance. On est appelé à porter continuellement nos regards sur ces gens-là, qui eux-mêmes sont enracinés dans les Écritures, qui sont des imitateurs de Paul et du Seigneur. On est en train de parler ni plus ni moins en termes techniques de formation de disciples. On veut être en train de former des disciples qui vont à leur tour former des disciples et qui vont enseigner à observer ce que Christ nous a prescrit. On veut que cette roue-là continue et puis s'attendre à Dieu pour voir ces relations-là d'imitateurs et puis on va voir tantôt à quoi ça nous mène. Okay? Alors, ceux qui marchent selon le modèle, les apôtres, et puis finalement, imitateurs des anciens, 1 Pierre 5,3, qui sont modèles du troupeau. Hey, on est un troupeau. Laissez vos cris d'animaux à la maison, OK? J'en ai entendu un petit. On est un troupeau, on est le troupeau de Dieu. Et puis, Dieu prend soin de son troupeau, c'est ça qui est rassurant. Et donc, 1 Pierre 5,3, les anciens comme modèle du troupeau. Donc, on s'aperçoit d'une chose en regardant ces textes-là, puis en s'attardant sur cet aspect de la vie chrétienne qui est d'imiter. Puis comme je vous dis, j'effleure le sujet aujourd'hui, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, il y a des séries de prédications qui pourraient être faites juste sur cette portion de la portion... Pas comme si c'était une petite portion. Wayne Grudem va dire que ça fait partie de notre union avec Christ. Hein? Donc, souvent, on parle de notre union avec Christ, de Christ qui vient en nous comme des bénéfices qu'on retire de son œuvre tout accomplie. Mais ça va ensemble. On ne peut pas séparer le fait d'être uni à lui, de bénéficier de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, séparer ça de notre marche et de l'imitation de Christ, des apôtres. De ceux qui marchent selon le modèle qu'on trouve chez les apôtres. Alors, on s'aperçoit que le Seigneur est plus intéressé à modeler notre cœur, nos affections, notre caractère, que nos circonstances. Au grand désespoir de plusieurs d'entre nous. Parce que nos prières souvent sont orientées vers le confort, vers la sécurité. « Seigneur, je veux telle, telle chose, telle, telle situation. » Et le Seigneur est plus intéressé à modeler notre cœur, nos affections, nos désirs, notre caractère, que nos circonstances. On voit au verset 6 que les Thessaloniciens ont connu la joie du Saint-Esprit malgré les afflictions. Et c'est complètement contre-intuitif. Nous, on recherche les conditions gagnantes. On cherche des circonstances favorables à marcher avec Dieu, à se développer comme individu, à s'épanouir. Donc, ce que Dieu fait, c'est complètement contre-intuitif. Mais il le fait et il est très bon à le faire. Et donc, la transformation du cœur se fait souvent dans des conditions qui sont à nos yeux défavorables. On dit, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'emmènes sur ce chemin-là de défavorable, de souffrance, de persécution, d'opposition? » Et au bout du compte, on s'aperçoit que Dieu, dans sa sagesse, est en train de faire une œuvre extraordinaire. Rappelons-nous ça. Rappelons-nous ça aujourd'hui, OK? Alors, une image, justement, de ces conditions défavorables. Je vais vous donner un exemple, OK, pour peut-être comprendre un peu mieux, mais c'est notre lot à tous, fait que je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui vivent le bonheur parfait? Vous viendrez me voir après pour donner votre recette, OK? Mais quand même, un exemple, qu'est-ce qu'on fait quand un bateau est en péril sur la mer? C'est quoi le réflexe des matelots quand le bateau est en péril? On va tous mourir. Hein? On quoi? On jette à l'eau? Ouais, ça c'est assez radical, mais on jette des objets hors de l'eau. Il y a du délestage qui se fait. Le Seigneur fait du délestage dans nos vies. Il nous amène dans des endroits où il va délester. Il va nous ramener à l'essentiel. Il va nous ramener à chérir sa parole, à vraiment retrouver à quel point la suprématie de Christ dans nos vies. C'est ça qui va être notre motivation. C'est ça qui fait que ça ne laissera pas place au désespoir. Il va y avoir des périodes de découragement, mais comment est-ce que je ne tomberai pas dans le désespoir? C'est quand je me rappelle et que je regarde et que les autres me rappellent aussi. Extrêmement important que Dieu est en train de faire une œuvre. Il y a eu du délestage. OK, j'y tenais. J'y tenais à mon radeau. Comment je vais m'en sortir, Grasteur? J'ai plus de bateau de radeau. Il y a des choses, là, on y tient. On y tient, puis le Seigneur fait du délestage. Et puis tôt ou tard, on va le remercier. Alors, qu'est-ce qu'on doit imiter? Donc, on est appelé à imiter, mais qu'est-ce qu'on doit imiter exactement? Oui, c'est une réponse. Donc, on vient de voir quelques exemples. On en a déjà parlé, OK? De se pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Mais il y a un texte que j'aime tellement. C'est un texte qui m'a accroché à l'époque où Philippe Lascombe était responsable des groupes maison. Salutations à Lise, à Philippe. Content de te voir, Lise. Et puis, à cette époque-là, on était autour d'une table avec Dominique Préjean, Emmanuel, il y avait Benoît, il y avait notre ami qui est à Sainte-Agathe là, maintenant, où on faisait les barbecues, là. François et d'autres, Larry Tardif. Et puis, une chose que j'ai retenue justement de Philippe, c'était le leitmotiv qu'il nous avait laissé. Parce qu'on parle d'influenceur, OK? Là, vous me demandez où je m'en vais, pourquoi je donnais ce titre-là d'influenceur. Et puis, il nous avait laissé un leitmotiv par rapport à cet aspect-là d'être des influenceurs ou des modèles. Et c'est un texte dans Isaïe, dont j'oublie la référence, qui disait qu'on est appelé à conduire les brebis au roi. Peut-être quelqu'un se rappelle de la référence là, dans Isaïe. Donc, je lui rappelais, la dernière fois que j'ai vu Philippe, là, je lui rappelais combien ça m'avait marqué. Tous et chacun, parce qu'on est tous imitateurs, et on va voir bientôt modèle. Et c'est sûr qu'il y a des fonctions dans l'Église où l'accent est encore plus mis sur le fait de conduire les brebis au roi. Alors, ce texte-là se trouve dans 2 Timothée 3:10. Je trouve que ça répond bien à la question, comment est-ce qu'on doit imiter? En quoi est-ce qu'on est appelé à imiter? 2 Timothée 3:10. Pour toi, donc c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions et mes souffrances. Donc, ce n'est pas juste l'enseignement, ce n'est pas juste un bel exemple. Je trouve que ce texte-là fait vraiment le tour et on sent l'intimité là, du maître aux disciples, si on veut, là, de Paul à Timothée. On sent ici qu'ils ne se sont pas connus la veille. Et puis, ils n'ont pas simplement parlé de la pluie du beau temps. Ils ne se sont pas juste rencontrés de temps en temps pour prendre une bière ensemble. Je ne sais pas si la bière existait dans ce temps-là en Judée. Anyway. Non, le vin. Oui, c'est ça, c'était le vin. Mon beau-frère. Anyway, on a des discussions. Là, c'est le vin, moi, c'est la bière. Mais anyway. Fait que. On sent cette intimité-là entre Paul et Timothée, et qui va dire, tu as suivi de près mon enseignement, ce que je t'ai appris à propos de Christ, à mieux le connaître, mais pas simplement ça, mes projets. Et puis la question, je peux nous la renvoyer, comment est-ce que tu organises ta vie? Qu'est-ce que tu priorises? Ma foi, en qui, en quoi est-ce que tu mets ta confiance et où tu vas chercher ton secours? Ta douceur. C'est quoi ton rapport aux autres? Qu'est-ce qui définit ton caractère? Ton amour. Vers qui ta vie est orientée? Ta constance, est-ce que tu demeures dans ces choses-là ou tu cherches continuellement des opportunités? La persécution, c'est quoi ta réaction devant l'opposition? Celui qui veut vivre pieusement va être persécuté. Nous, on n'a pas vraiment connu ça. Je sais qu'il y a Murray Heron qui est emprisonné, un grand prédicateur qui a déjà prêché ici, d'ailleurs, il y a quelques années. Mais on vit de l'opposition, parce qu'on est identifié à Christ, on vit de l'opposition, on ne peut peut-être pas appeler ça de la persécution, mais on vit de l'opposition. C'est quoi notre réaction devant cette opposition-là? La souffrance, il va dire, Paul, tu as connu aussi mes souffrances. Est-ce que je reconnais la main de Dieu dans les bons et dans les mauvais jours? Donc, 9 points ici qui nous sont donnés et qui, je trouve, sont des points qui valent la peine d'imiter. Et que c'est des points qu'on va retrouver dans les autres passages qui nous parlent d'imitation, de développer ce caractère-là. Tantôt, on disait dans Éphésiens, où ça nous est dit de s'aimer comme Christ nous a lui-même aimés. Donc, tu sais, c'est pas de dire, ben si Dieu le fait, je suis capable de le faire. Tu sais, ça me fait penser à une chanson de Keith Green, où il dit, tu sais, il reproche un peu aux gens qui vivent peut-être la grâce à bon marché, là, si vous voulez. Et il va dire, Christ est sorti du tombeau, il s'est relevé d'entre les morts, puis toi, tu n'arrives même pas à sortir de ton lit, à te lever le matin. Vous connaissez la chanson? Fait qu'il était radical, hein? C'était un gars radical, il n'avait pas peur de dire les vraies choses dans la chanson. On l'aime ou on ne l'aime pas. Keith Green. Donc, c'est pas de dire, OK, Christ a fait ça, il faut que je le fasse. C'est comme je disais tout à l'heure, je dois être continuellement renouvelé dans la grâce qu'il a à mon égard, dans sa bonté, son amour à mon égard. Acte 13, 14, 43 va dire, restez attachés à la grâce de Dieu. Restez attachés à la grâce de Dieu. Je vais revenir là-dessus tantôt, on va bientôt conclure. Donc, on est appelé à imiter, et mais on s'aperçoit que les imitateurs deviennent des modèles, des influenceurs. Et ce n'est pas qu'on arrête un jour de devenir imitateur. Toute notre vie, on est des imitateurs. Toute notre vie, on est appelé à suivre l'exemple qui nous est donné par les apôtres, et puis, etc. Mais on s'aperçoit en lisant la lettre aux Thessaloniciens que rapidement, les croyants de Thessalonique sont non seulement devenus imitateurs, mais sont devenus modèles et une inspiration pour toute la région. Des influenceurs, selon le cœur de Dieu. Des exemples. D'autres, il y a des traductions qui vont parler d'exemples. Donc, modèle, exemple. Moi, je vous lance un terme moderne aujourd'hui, les influenceurs. Et on avait une discussion avec mon ami Mathieu, puis Jonathan, la semaine dernière, sur qu'est-ce qu'un leader. Et puis, Jonathan nous rappelait, c'est une parenthèse, qu'un leader, c'est quelqu'un qui va influencer. Parce que si on veut être leader selon les principes de ce monde, on va rapidement devenir des dominateurs et des manipulateurs. Mais Dieu nous appelle à être influenceurs, à influencer, à inspirer par ce que notre pasteur invité nous a dit la semaine dernière, en servant. Le Seigneur nous appelle, encore une fois, c'est contre-intuitif, c'est pas selon les principes de ce monde. On est appelé des influenceurs, des exemples, des modèles en servant. Sinon, si on quitte ce chemin-là, on va devenir dominateur et manipulateur. C'est obligé. Donc, d'imitateur à modèle, les Thessaloniciens nous ont laissé un modèle de ce que c'est la vie chrétienne normale, pour reprendre le titre d'un livre de Watchmoney. Ils ont laissé un modèle de ce que c'est la vie chrétienne normale par les trois fameuses caractéristiques ou piliers ou dimensions de la vie chrétienne que Paul va ramener à quelques reprises dans ses lettres. Donc, une foi agissante, le travail de l'amour et une fermeté, la fermeté de notre espérance en Jésus-Christ. Une foi agissante, le travail de l'amour, la fermeté de notre espérance en Jésus-Christ. Donc ça, c'est le modèle qui nous laisse. Donc Paul, il dit, ces choses-là sont évidentes parmi vous. Et puis, petite note en passant, je pense que c'est MacArthur qui souligne le fait que le travail de l'amour nous parle de l'effort soutenu à orienter nos vies, comme je disais tout à l'heure, vers les autres. Donc la foi, comme Pasteur Jeff nous rappelle beaucoup dernièrement, la foi qui produit des fruits, donc ces œuvres à lesquelles on est appelé, et puis le travail de l'amour, c'est cet effort soutenu dans une vie orientée vers les autres. Et ça a amené les Thessaloniciens à abandonner les idoles, à servir le Dieu vivant et à attendre Jésus-Christ. Verset 10, attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, trois choses qui ont été évidentes dans la vie des croyants de Thessalonique, puis qui ont été concrétisées, qui ont été manifestées par l'abandon des idoles pour servir le Dieu vivant dans l'attente du retour de Christ. Donc, il y a vraiment cette attente, je pense que Christine, on en parlait justement dimanche aussi, cet aspect-là de l'attente du retour de Christ. C'est quoi le passage, je pense que c'est dans Timothée, où il dit qu'on a aimé son apparition, où on a aimé, son événement, c'est ça, je cherchais le mot. On a aimé son événement. Donc, on vit ancré dans le passé, appuyé, enraciné dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, dans le présent, en train de marcher dans ses œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et dans le futur, les yeux tournés vers le retour de Christ, sachant qu'on est de passage ici. Alors, verset 7, ils sont devenus un modèle pour tous les croyants de la région. Ils sont devenus un modèle, les Thessaloniciens, pour tous les croyants, une influence, un exemple. Ils ont inspiré par leur mode de vie, ils ont inspiré les croyants. Donc, ce n'est pas simplement des beaux discours, ce n'est pas simplement du travail humanitaire. C'est un tout, c'est ces trois choses-là qui transpiraient de la vie des Thessaloniciens. Et tantôt, je vous disais qu'ils sont tournés vers le monde extérieur, tournés vers leur entourage. On voit que la parole a retenti. La parole a retenti. Que leur foi s'est fait connaître. Et qu'on racontait des choses à leur sujet. Verset 9, Paul dit, ça se parle, ce qui se passe chez vous. Et puis un exemple qu'on peut donner, c'est comment Paul, en parlant aux Corinthiens, a donné Thessalonique en exemple par rapport à la collecte pour les pauvres de Jérusalem. Il dit, regardez ces gens-là, pauvres, et malgré ça, ont pris de leur nécessaire et l'ont donné pour les pauvres de Jérusalem. Et rappelez-vous dans quel contexte Paul va dire ça aux Corinthiens. Christ s'est appauvri. Sinon, ça va créer deux choses. Bien, d'abord, cet appel-là à imiter, ça nous pousse au bout de nos capacités. Vous êtes d'accord avec nous, avec moi? Avec nous. J'ai préparé ça, cette prédication, avec quelqu'un d'autre. 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est un appel radical. D'où l'importance de demeurer ferme dans cette grâce de Dieu et d'expérimenter cette grâce-là, sa bonté à notre égard jour après jour. Et on va connaître des échecs et on va connaître des succès. Il y en a qui voudraient lever la main. OK? Vous êtes dans une période où vos succès sont gros comme ça, vous flottez, puis je suis content pour vous. Il y a des temps comme ça où ça va bien. Il me semble que j'ai eu une sanctification, j'ai eu un boost de sanctification dernièrement, je ne sais pas. J'ai eu un bonus avant même la résurrection. Et puis il y a d'autres périodes où c'est nos échecs, on les a en pleine face. Et puis je sais qu'il y en a ici ce matin qui vivent la face dans leurs échecs. Vous vivez la face dans vos échecs. Soyons pas rongés par nos échecs. On va tous connaître des périodes d'échecs, de succès. J'aimerais vous dire ce matin, ne soyons pas rongés par nos échecs, ni enflés par nos succès. Le Seigneur a marché dans une obéissance parfaite. Le Seigneur a marché dans une obéissance parfaite et il ne nous lasse pas, il ne se lasse pas de nous pardonner. Donc, expérimenter sa grâce et de se rappeler qu'il ne se lasse pas de nous pardonner, on relève la tête et puis on se rappelle que lui-même agit en nous. Donc, l'ennemi veut nous amener à porter tout ce fardeau-là sur nous-mêmes. Mais rappelons-nous que Christ vit en nous et que le Saint-Esprit agit en nous. Et donc ça va nous garder du désespoir que des fois, ces périodes où les échecs sont gros, comme un éléphant, on les a en pleine face. Et c'est ce que l'ennemi veut créer. L'ennemi veut nous emmener finalement sur les deux terrains. De se nourrir, d'être rongé de nos échecs, ou de s'abreuver et puis de s'enfler de nos succès, mais pas de s'appuyer sur l'œuvre accomplie par Christ pour nous. Alors, j'ai presque terminé. Sur ce sujet-là, il y a une parole que je vais vous laisser, 2 Pierre. 2 Pierre va dire, sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Parce que, ici, l'imitation, là, on parle de piété. Sa divine puissance vous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Et un peu plus loin, il va dire, c'est pourquoi donc, faites tous vos efforts pour développer les différentes vertus que Pierre va donner. Parce que l'ennemi fait tout pour nous enlever de ce terrain-là. Donc, rappelons-nous qu'il a tout donné, ce qui contribue à la vie, à la piété. Parce qu'il vit en nous. Alors, Seigneur, on veut te demander cette grâce ce matin de ne pas être des auditeurs oublieux, mais de vraiment méditer, de se rappeler ces paroles cette semaine. Apprends-nous à être des imitateurs et à réaliser que on est à la fois imitateur et modèle. Et que pour développer cet aspect-là de la marche avec toi, on a besoin de retrouver le sens de l'Église locale, de la communauté, de vivre ensemble, de s'aimer les uns les autres. Fait que merci de nous diriger sur ce chemin-là cette semaine, Seigneur, et de bénir chacun. Tu connais les cœurs, tu connais la saison qu'on traverse comme individu et comme Église. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu fais.